Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Roberto Balzaretti. Vous êtes ambassadeur de Suisse en France et à Monaco. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un événement plutôt original. C'est celui d'un ambassadeur qui sillonne le pays où il est en représentation, à savoir en l'occurrence la France, à vélo, différentes régions, et puis vous êtes passé par la Bretagne Sud. Comment, monsieur l'ambassadeur, cette idée est-elle née ?
Alors d'abord, bonjour et merci de l'intérêt. Alors l'idée nous est venue il y a une petite année à l'ambassade de sortir de la belle ville qu'est Paris, qu'on connaît, où on a évidemment les contacts que nous devons avoir avec les autorités politiques françaises, pour aller alors doublement à la rencontre du territoire français. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je connaisse mieux le pays qui m'accueille, mais aussi à la rencontre des occasions de travail commun franco-suisse. Ça peut être des entreprises, donc l'industrie, mais la science, la recherche, la culture, ou alors aussi des citoyennes et citoyens suisses qui vivent en France parfois depuis très longtemps. Et ça, c'était l'idée. Donc, c'est pas très original, vous direz, chaque ambassadeur se doit de faire ça. Alors on s'est dit, on va essayer de le faire de manière très originale. On prendra un vélo, on a pris un vélo avec une petite assistance électrique, faut quand même pas pousser trop loin, ce qui nous permet d'aller suffisamment rapidement pour faire ça en quelques jours et pas en quelques mois, mais suffisamment lentement pour sentir au mieux le territoire. Il y a pas comme sur un vélo que sur un vélo pour mieux sentir ce qui se passe dans les comtés que vous traversez.
Un vélo, je crois, avec une technologie suisse, non ?
C'est aussi. Oui. Alors,
faut aussi faire la promotion de votre industrie.
Ah ben merci. Le vélo est un vélo de course, donc si vous le voyez en tant que que non connaisseur, vous n'y verrez pas grand chose. Il a un moteur très innovant, fabriqué par Maxon. Maxon est une entreprise de Suisse centrale qui a une grande succursale dans la banlieue de Lyon. Ils font normalement des micromoteurs pour la chirurgie, pour les pompes à insuline, par exemple, pour les stimulateurs cardiaques, ou alors pour la robotique de précision. Ils ont fait, par exemple, les moteurs qui bouge les différents engins du Perseverance qui est sur Mars en ce moment. Donc une entreprise de pointe suisse, mais qui est aussi installée en France. Et donc c'est aussi une belle histoire à raconter que de cette coopération scientifique et industrielle entre la Suisse et la France.
Quel est le rôle d'un ambassadeur de Suisse en France ? Je vais préciser ma question. Quand c'est un pays lointain, un pays que l'on connaît mal, un pays compliqué, je suis une entreprise, je veux m'allier avec une autre entreprise, je veux faire de l'exportation, j'appelle l'ambassade, je veux faire des études, j'appelle l'ambassade, je me renseigne, je demande. Mais j'allais dire, quand c'est la Suisse, c'est un peu comme si c'était l'Italie ou la Belgique. Je veux exporter, j'appelle l'entreprise, on se débrouille entre nous, on va voir des avocats qui nous renseignent sur le droit, etc. Culturellement, c'est un peu la même chose. Nos pays sont tellement proches que, j'allais dire, je ne veux pas minimiser votre rôle, monsieur l'ambassadeur, mais je veux dire, on n'a pas forcément besoin d'une ambassade.
Oui, je comprends bien votre question. Et d'ailleurs, j'admets très très volontiers que la plupart des relations se passent sans intervention de l'ambassade et sans même que l'ambassade ne le sache. La notre conception du rôle de l'État en Suisse, c'est très bien ainsi. On pose le cadre nécessaire, on conclut quand même des accords avec les pays, même avec les pays voisins. On conclut des accords avec l'Union européenne, qui est notre partenaire très très important. Et puis après, on le laisse aller. Mais en même temps, alors il y a des choses qu'on est censé faire et puis qu'on essaie de faire au mieux. Vous savez, il y a plus de 200 000 Suisses qui habitent en France. Il y a 185 000 Français qui résident en Suisse. Il y a 200 000 frontaliers français qui viennent travailler chez nous tous les jours. Et on en est très, très reconnaissant. Il vient produire de la richesse. Donc tout ça mérite quand même un cadre attentif, et l'ambassade, quelque part, c'est le pendant d'un gouvernement dans l'état d'accueil. essaye d'accompagner tout ça. Il y a des relations quotidiennes avec les administrations françaises à tous les niveaux. Il y a des relations avec les régions. Nous avons 3 consulats généraux à Strasbourg, à Lyon et à Marseille. Et quelque part, ce tissu administratif sert à accompagner des choses, vous le dites justement, qui se font parfois toutes seules, parfois pas. Pensez à la relation que vous avez avec votre voisin. Elle est normalement très amicale, très facile, mais c'est aussi là où il y a le plus de points de friction potentiels. Et donc, il faut prendre soin tout particulièrement de la relation avec votre voisin, beaucoup plus qu'avec quelqu'un qui vit à quelques dizaines de milliers de kilomètres de chez vous. Donc, voilà, l'économie, la société, la culture, la science, la recherche, tout ce qui fait une relation importante entre deux pays amis, mérite que on soit présent sur le territoire et qu'on accompagne tout ça correctement.
Alors il y a aussi cette particularité suisse de ne pas être dans l'Union européenne. Il y a quelques années, il y a quelques décennies même, je rencontrais souvent un grand patron de presse suisse, Michael Ringier, oui. Qui souffrait beaucoup de ne pas pouvoir investir en France en raison des lois concentration qui font que les éditeurs non européens ne peuvent pas avoir plus d'un certain pourcentage dans la presse, dans les radios. Je vois l'actualité avec par exemple un milliardaire tchèque qui lui investit massivement en France, ce qui n'est pas forcément possible pour un éditeur. Où est-ce que nous en sommes dans ces relations bilatérales qui font que finalement il y a beaucoup de freins encore du fait de la non-appartenance à l'Union européenne.
Alors nous avons, par vote populaire, décidé de ne pas accéder à un cadre multilatéral étendu. C'était en 92, c'était l'accord sur l'espace économique européen qui était quelque part un pendant pour les États non membres, un pendant d'une adhésion. Le peuple suisse a refusé cet accord. Depuis, nous avons conclu une vingtaine d'accords bilatéraux très importants avec l'Union européenne qui permettent de couvrir l'essentiel d'une relation entre voisins. Mais comme vous le dites à juste titre, on n'est pas un État membre et donc certaines disciplines, certains droits, mais aussi certaines obligations nous échappent quelque part, ne nous concernent pas. Je pense qu'au-delà du cadre qui peut être un cadre bilatéral ou multilatéral ou même l'adhésion, en parenthèse, je dois quand même vous dire qu'aujourd'hui, un vote populaire qui serait obligatoire pour adhérer à l'Union européenne aurait très peu de chances de réussir. C'est une des raisons pour lesquelles on cherche d'autres pistes, mais au-delà du cadre institutionnel, réglementaire, législatif, les relations entre la Suisse et l'Union européenne et la Suisse et les États membres de l'Union européenne sont d'une intensité incomparable au niveau mondial. Oui. Nous exportons 55% de ce que nous produisons dans l'Union européenne. Nous sommes le 5e-6e partenaire de l'Union européenne en marchandises, en services. On échange 1 milliard par jour en marchandises et 1 milliard en services. Donc c'est vrai que certaines choses sont peut-être un petit peu plus compliquées. C'est vrai, mais c'est un choix souverain du pays et donc il faut faire avec, il faut trouver d'autres pistes. Une des pistes est, par exemple, celle de promouvoir plus intensément les relations bilatérales. Évidemment, les États membres de l'Union européenne doivent aussi respecter un cadre qui est donné, mais c'est possible de faire beaucoup de choses indépendamment de la question de l'adhésion ou pas. Alors, pour répondre à votre question, je pense que c'est à ça qu'on travaille, intensifier la relation dans le cadre qui est possible pour nous, parce que franchement, il n'y a pas de chance pour l'instant de convaincre le peuple, le souverain suisse, que l'adhésion est la meilleure option. Et alors on en prend.
Oui, mais après il y a d'autres solutions, monsieur l'ambassadeur, comme la réciprocité. Ce sont des accords de réciprocité qui peuvent ensuite être signés. Voilà, c'est-à-dire que si par exemple on autorisait les citoyens suisses à voter aux élections municipales comme peuvent le faire les citoyens européens, il peut y avoir un autre cadre de réciprocité qui est fait dans l'autre sens.
Tout à fait.
Et c'est du cas par cas après, voilà.
Oui, c'est ça. Et parfois, la législation européenne est un peu plus rigide que celle de certains États membres et elle prévaut. Donc, c'est pas toujours si simple. Ça, j'en conviens. Mais il y a des pistes. Et là où il y a une volonté, on trouve un chemin. Et c'est un peu ma devise.
Est-ce que dans votre parcours, dans votre Tour de France, vous entendez des... Quelles sont les principales demandes, principales réflexions qui reviennent le plus souvent? Est-ce qu'il y a beaucoup de PME, par exemple, qui vous disent « Tiens, on n'y pensait pas ». On dit souvent que ce qui est le plus près, c'est ce qui est le plus loin. C'est-à-dire que quand un Parisien ne va jamais visiter la Tour Eiffel, on sait que quand vous avez perdu votre trousseau de clés, vous le cherchez partout et en fait, il est posé sur la table. Et c'est... voilà. Est-ce que, par exemple, la Suisse, c'est un peu pareil? La PME, en France, ouais. Elle se dit il faut que je cherche à m'implanter en Grèce, en Turquie, on va voir ceci. Puis vous arrivez, moi, c'est la Suisse, et vous êtes tellement proche que j'en tiens, on n'avait pas pensé ouvrir un bureau. Est-ce que ça vous arrive, ça?
Oui. Je pense qu'on peut faire une distinction entre les zones plus proches de la frontière, où les bassins de vie sont pratiquement intégrés, c'est des bassins de vie communs, hein. Je pense à l'Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, l'Alsace, le Grand Est, donc le long de la frontière, ça je pense que cela n'arrive pas, parce qu'on se connaît bien, on connaît les opportunités de part et d'autre de la frontière, on connaît aussi les quelques difficultés hein, qu'il faut surmonter de nature administrative ou autre. Par contre, vous avez raison, lorsqu'on s'éloigne un petit peu de la frontière, parfois on est surpris qu'il y a la Suisse à côté, qu'il y a une économie florissante, que le marché n'est pas si compliqué que ça à pénétrer. Nous sommes assez faciles du point de vue administratif. Mais il arrive aussi qu'il y ait des entreprises françaises qui le savent, qui se sont d'abord créées autour des autres écoles suisses, par exemple, les PFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne ou celle de Zurich. Des startups, des petites entreprises ouvertes en France qui créent des succursales en Suisse. Et c'est un cercle vertueux qu'on constate de plus en plus. Je dirais que la jeune génération fait ça plus facilement. Mais pour le reste, oui, vous avez raison. Et c'est aussi un des buts de ce voyage à travers la France, d'expliquer ça, d'expliquer qui nous sommes, de montrer que c'est possible. Cette semaine, par exemple, c'est un peu exceptionnel, mais j'ai été accompagné pendant un jour et demi, par une délégation d'entreprises suisses dans la microtechnique, dans les technologies avancées d'outillage de composantes pour l'aéronautique ou pour le naval même. On a visité les chantiers navals de l'Atlantique, le port de Saint-Nazaire. Ils ont eu une série de contacts avec des entreprises locales ou des autorités locales, justement pour montrer que ces échanges sont un, possibles, deux, favorables aux deux économies. Finalement, le Pays de la Loire a une économie de PME qui est assez semblable à la nôtre, donc il y a certainement des synergies. Pour ça, il faut se donner le temps et la peine d'aller à la rencontre des gens et des opportunités. Je pense donc que vous avez raison. Dans une certaine mesure, on ne se connaît pas assez bien et je pense qu'on mérite à mieux se connaître.
Sur justement, dans l'autre sens maintenant, les entreprises suisses, vous avez envie de promouvoir les idées reçues, les clichés. Vous avez de très belles start-up en Suisse, par exemple, si on se parle, le son qui passe de la radio est transmis par une société suisse, figurez-vous, puisque c'est Infomaniac, voilà, qui est une belle start-up suisse, Infomaniac, qui est un peu l'équivalent de l'OVH suisse. Voilà, est-ce qu'il y a des clichés pour sortir un peu la Suisse, c'est les montres et c'est le chocolat, quoi.
Oui, peut-être dans le grand public. Et quelque part, vous savez, pourquoi pas. Le cliché, tant qu'il porte sur un produit de qualité, ça va aussi. Hein. Je veux dire, les Alpes suisses sont magnifiques. Si vous voulez venir en vacances, venez en vacances chez nous. C'est vraiment beau. Les villes aussi, plein de musées, de théâtres et ainsi de suite. Donc, dans une certaine mesure, je renie pas ça. Au contraire, on essaie même d'être meilleur dans la concrétisation du cliché. Mais après, il y a tout à fait autre chose. Vous avez raison. On a des écoles supérieures de niveau mondial. Qui produisent des ingénieurs, d'ailleurs, de toute nationalité. Il y a 12 000 étudiants dans les hautes écoles suisses en ce moment, hein, universités, écoles polytechniques, écoles hôtelières et ainsi de suite, 12 000. Quelques-uns, quelques-unes restent chez nous, d'autres viennent en France, répandent la bonne nouvelle d'un pays qui est très avancé dans tout ce qui est tech, medtech, biotech, clean tech, avec un foisonnement de start-up, comme vous dites, qui sont très avancées à l'échelle européenne et mondiale, et qui ont par contre un besoin absolu, une fois qu'elles sont nées, d'avoir accès à des marchés plus larges, parce que le marché suisse est certes un marché riche, mais petit, on est 8 millions et quelques d'habitants, déjà le marché européen, d'où la nécessité d'avoir des relations apaisées, suivies avec l'Union européenne, et puis au-delà de ça, le marché mondial. Et donc, c'est aussi l'occasion de raconter cette histoire que de parcourir la France à vélo, et puis on le fait à l'ambassade, bon, avec des événements, on partage ça sur les réseaux sociaux, donc on néglige pas ça. Mais le cliché, pourquoi pas, le chocolat, il est bon d'ailleurs, il est bon aussi en France, mais tant qu'il est bon, je vais le promouvoir aussi.
Merci Roberto Balzaretti. Eh bien, je vous souhaite
avec grand plaisir.
Très belle tournée dans notre pays, sur nos côtes. Vous avez été à Guérande et à La Baule aussi. Vous avez rencontré Franck
Louvrier. Tout à fait.
Tout à fait.
On a fait Lorient, Carnac. Voilà quoi. Pour presque terminer ma tournée, je vais la terminer à Marseille et Monaco cette année, au mois de novembre.
Oui, et l'année vous êtes également ambassadeur auprès de Monaco.
Tout à fait.
Il a été convenu des jumelages, de garder le contact, d'autres choses avec les élus de notre région que vous avez rencontré, peut-être même Franck Louvrier.
Alors, il y a déjà un jumelage à Vitroux à la ville de Morges, sur le lac Léman, du côté suisse. Ça se fait de manière assez spontanée. Il y a une tradition qui remonte des rencontres presque fortuites parfois, ou alors ça s'est fait beaucoup dans le cadre du Conseil de l'Europe. Là, ce que nous allons faire, évidemment, c'est de garder tous les contacts qu'on établit pendant ce tour, inviter les personnes qui nous ont accueillis, soit à l'ambassade, soit en Suisse, et essayer de faire en sorte que ça soit pas un épisode, mais que ça soit le début d'une belle histoire, ou alors la continuation d'une belle histoire, certainement.
Merci de m'avoir répondu, Roberto Balzaretti. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de Suisse en France et à Monaco, vous faites votre Tour de France à vélo. C'est original, un vélo, un ambassadeur des rencontres en route avec la Suisse. Merci, monsieur l'ambassadeur.
Merci à vous et très bonne journée. Merci.